Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois le docteur Payot. Il est allé au Tchad pour soigner les malades et il va nous en parler plus longuement. Docteur Payot, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors tout d'abord, j'ai beaucoup aimé la musique que vous avez mise pour le début de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous en donner le titre ?
C'est une musique avec laquelle je pars toujours quand je pars en mission au Tchad ou ailleurs. Actuellement, je vais surtout au Tchad. J'emporte toujours cette musique avec moi, ce qui est Michel Sardou, qui est cette magnifique chanson qui s'appelle « Afrique, adieu ».
Oui, alors, c'est vraiment...
On pourrait dire « Afrique, bonjour » ou « Afrique, bonne arrivée ». Parce que quand vous arrivez là-bas en Afrique, ils vous accueillent tous avec un très grand sourire. Comme je vous le disais dans une autre émission, les Tchadiens n'en veulent pas du tout à la France de l'instant colonial, mais bien au contraire, ils nous sont très reconnaissants de tout ce qu'on leur a apporté pendant la période coloniale. Ils sont très reconnaissants de voir les coopérants arriver pour leur apporter du matériel, leur apporter de la pharmacie, leur apporter tout simplement leur technique, un peu de leurs compétences, un peu de leur expérience. Et le grand mot qui revient tout le temps quand on arrive là-bas, c'est « Bonjour, bonne arrivée ». C'est quelque chose qu'on emploie, oui. Qu'on ne dit jamais en France.
Non, non.
Bonjour, bonne arrivée. Alors nous, les Africains, on se dit entre nous toujours « Bonne arrivée, bonne arrivée
». Et quelle est la fréquence de vos voyages ?
J'y vais 2-3 fois par an, une quinzaine de jours.
Et quand vous êtes là-bas, vous dormez
à l'hôpital.
À l'hôpital.
Oui, on dort à l'hôpital. C'est un hôpital à l'africaine. Il ne faut pas du tout croire qu'on est au centre.
Expliquez-nous ce que c'est qu'un hôpital à l'africaine.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un hôpital à l'africaine ? Eh bien, ce n'est pas du tout un hôpital à la française,
non,
ni
ça.
À l'américaine, ni à la suédoise. C'est un hôpital d'abord où on a quand même une certaine impression de saleté. La deuxième impression, c'est celle des moustiques qui volent autour et qu'il n'y a pas, il n'y a rien pour empêcher les moustiques de passer. Il y a de vagues moustiquaires ou de vagues grillages aux fenêtres, mais ces grillages ont toujours des gros trous qui ne sont jamais réparés. Donc, je disais des salles communes, des lits qui nous paraissent vraiment infects parce que il n'y a pas de draps, il y a simplement des espèces de sarraux qui sont sur les lits, et ce sarreau va rester tout le temps où va rester le patient hospitalisé, ne sera jamais changé. Oui, globalement, on a eu l'impression de saleté et il faut avoir le cœur bien accroché, surtout quand on est chirurgien et qu'on est habitué à la stérilité des blocs opératoires. Et voilà, il faut avoir le cœur bien accroché quand on arrive dans ce genre d'établissement. Et puis, finalement, on s'y habitue. On essaye de lui apporter un petit peu d'organisation, un petit peu d'ordre, un petit peu, je dirais pas d'asepsie, mais un petit peu de propreté. Alors, il faut le faire quand même avec prudence, parce que
je disais
qu'ils nous accueillent toujours avec le sourire, très gentiment, mais il ne faut pas non plus qu'on les vexe. Il ne faut pas qu'on leur dise « mais tu sais, ce n'est pas du tout bien ce que tu fais là, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Alors voilà, il y a toute une attitude diplomatique qu'il faut avoir.
Mais vous mettez quand
avoir.
Même des gants pour opérer.
On met bien entendu des gants pour opérer. Ils ont quand même du matériel. On a pour faire les examens, d'abord ils font les prises de sang basiques, on a un échographe qui vient de France d'ailleurs, ce sont les coopérants qui ont apporté l'échographe.
Oui.
Moi je viens habituellement avec mon petit échographe portable avec lequel j'ai vécu toutes mes années de pratique en France et qui m'a rendu des services considérables et qui me rend là-bas aussi des services absolument considérables puisque ça fait gagner un temps phénoménal final sur le diagnostic, sur les traitements. Donc c'est voilà, on n'est pas du tout démunis, mais on manque quand même de technologie, de technicité, on manque d'organisation, de rigueur, et c'est là que l'on se heurte un petit peu à l'esprit africain.
Mais par contre, vous êtes combien de médecins, enfin de chirurgiens, pardon?
Il y a un chirurgien viscéraliste qui est là en permanence, qui est un Tchadien. Il y a un gynécologue, chirurgien gynécologue, qui est là lui aussi en permanence. Et le service de gynécologie bénéficie de la venue de coopérants français, habituellement, toujours francophones au moins, souvent parfois espagnols, parfois libanais, parfois italiens, mais toujours francophones. Qui eux aussi viennent une quinzaine de jours, donc qui se relaient les uns après les autres avec des périodes où il n'y a personne, où il n'y a que le local qui est là, que le chirurgien local, et qui garde, qui met de côté les cas difficiles pour essayer de les régler quand c'est possible avec le coopérant quand celui-ci arrive.
Et votre épouse a pu vous accompagner parfois ?
Mais surtout pas, parce que la pauvre serait complètement désemparée dans ce genre de structure où tout lui paraîtra sale, poussiéreux. Dans la chambre dans laquelle on dort le soir, tous les soirs, il faut passer le balai ou la vasingue pour nettoyer, parce qu'il y a de la poussière partout qui vient s'accumuler.
Il y a un réfectoire où vous déjeunez ?
Il y a un réfectoire, mais c'est une cantine, c'est extrêmement basique. Où on mange toujours la même chose, c'est-à-dire des nouilles, des pommes de terre, parfois des poulets très maigrichons. Donc, on n'y va pas pour faire un régime, mais ce ne sont pas des vacances. Il y a un de mes amis gynécologues là-bas qui a fait un film sur la vie de tous les jours de cet hôpital. Effectivement, la vie n'est pas comme en France. Les femmes qui accouchent sont par terre, elles attendent par terre, elles attendent sur des nattes par terre. Quand il y a une natte, pas toujours. Au dernier moment, elles acceptent de monter sur la table d'accouchement, vraiment au dernier moment. Et dès que possible, elles redescendent sur terre. Elles redescendent. Oui. Et on se demandait avec les copains, mais pourquoi est-ce qu'elle va absolument... elle est bien sur la table, là, quand même. Elle est, ah mais non, pas du tout. Il faut que mon bébé touche terre, parce que tant qu'il n'a pas touché terre, il n'est pas vivant. Il ne sera vivant que quand il aura touché terre.
Enfin,
c'est toute une mentalité complètement différente à laquelle il faut s'habituer. Bien sûr, c'est un hôpital africain. Là-bas, il n'y a quasiment pas d'hôpital de niveau français. Il y en a un, mais dans lequel la population ne va pas parce que ça coûte beaucoup trop cher.
Alors, il est où, cet hôpital ?
Il est dans N'Djamena.
Dans
N'Djamena. Il a un très joli nom, il s'appelle La Renaissance, mais c'est un hôpital qui est assez bien outillé, avec des bons spécialistes, des bons médecins, etc. Mais les gens n'y vont pas, c'est quasiment vide, parce que ne peuvent y aller que les gens qui ont de quoi payer. Or, personne n'a de quoi payer, donc n'y vont que les fonctionnaires, parce qu'eux sont pris en charge par l'État.
Mais il y a beaucoup de fonctionnaires quand même.
Il y a heureusement pas mal de fonctionnaires, donc ça permet de peupler à l'hôpital, un peu l'hôpital. Il faut savoir que le Tchad, il y a 5%...
Vous avez rencontré des collègues qui étaient dans cet hôpital ?
Il n'y a pas de Français. Le directeur, je crois, est un Français, mais il n'y a pas de Français.
Mais vous ne communiquez pas, en fait.
Si on communique, je suis allé à ma dernière mission, je suis allé deux fois pour les aider à opérer, pour leur montrer, leur montrer des trucs, si je peux dire.
Oui, bien sûr, des techniques nouvelles.
Des trucs chirurgicaux, voilà. Mais sinon, il n'y a pas de...
Est-ce qu'ils vous attendent pour les cas difficiles ?
Alors oui, ils avaient mis de côté des cas difficiles, oui.
Effectivement,
c'est ça. Voilà. Mais... ce qu'ils appellent, eux, des cas difficiles, pour nous, sont des cas courants. Enfin, on n'est pas exactement sur le même diapason. Donc, on n'est pas au même niveau de développement du tout.
C'est ça. On a beaucoup de chance en France. Quoi.
Même dans cet hôpital qui dispose de plein de choses. Ce qui fait que la population qui est riche, elle a très bien compris. Et ceux qui sont riches, il y a à peu près 5% de la population qui récupère tout l'argent du Tchad, les pétroles notamment. Et donc ces gens-là, vous les retrouvez en business class sur Air France et qui vont se faire soigner au centre Pompidou et qui reviennent quand ils sont guéris, s'ils guérissent. Mais sinon, la population moyenne n'a pas de quoi payer, donc il n'y a pas moyen de... On ne peut pas faire de médecine préventive là-bas. C'est impossible, parce que la médecine préventive, ça coûte de l'argent. Il faut payer. En France, quand vous allez... à une consultation de médecine préventive. Quand vous allez voir votre médecin pour savoir, pour avoir une prise de sang, pour savoir où vous en êtes, vous, la sécurité sociale dépense de l'argent. Mmh. Là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, les gens ne vont pas se faire faire la prise de sang. Mmh. Là, récemment, j'ai aidé un jeune étudiant à soutenir sa thèse qui était sur l'acide urique. Ouais. L'acide urique, vous savez, c'est ce produit que nous avons dans le sang qui donne, par exemple, les crises de gouttes ou qui donne des calculs dans les reins. Un bon moyen de savoir si vous avez de l'acide urique, c'est de faire une prise de sang et si vous avez trop d'acide urique, éventuellement de le traiter, tout au moins d'être au courant. Mais là-bas, c'est pas possible. Donc, il faut attendre la complication. Oh. Pour que le patient puisse bénéficier de ce dosage et enfin puisse bénéficier du traitement. Mais une fois que vous avez diagnostiqué et fait votre ordonnance pour lui donner le traitement de façon à faire baisser le taux d'acide urique, le patient qui toujours ne peut pas payer, n'a pas l'argent pour payer, il va acheter un peu pour faire plaisir à son médecin, va aller acheter une boîte. Mais après, c'est fini. Il arrête le traitement.
Ah oui,
or, ce traitement, pour qu'il soit efficace, il faut le garder pendant 5 ans, 10 ans. Enfin, c'est ce que font nos patients en France. Un type qui a l'acide urique en France et qui en souffre, il va
tous les matins,
son médicament tous les matins pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le laboratoire est très content. Ça marche très bien. Maintenant, c'est sous la forme de générique. Ça coûte moins cher. Mais là-bas, ce n'est pas possible. On est dans une autre forme de médecine.
C'est ça. Ouais. Et donc, mais heureusement qu'il y a des missionnaires comme vous, qui vont aider, parce que c'est quand même extraordinaire. Je connais un autre chirurgien au Mans qui fait ça également, et lui, il est allé au Congo. Vraiment, vous avez sauvé des gens.
C'est un très joli mot, mais sauver des vies. Ma belle-fille me disait récemment, « Ah, père, vous allez sauver des vies. » Alors, je remettais un petit peu les pendules à l'heure.
Si, c'est vrai.
Non, on ne va pas sauver des vies, parce que là, on va essayer d'apporter un petit peu de technologie et d'organisation. Voilà, c'est surtout ça. Parce que aller sauver une vie, bon, c'est très bien, ça fait plaisir à la personne.
Oui, mais ça fait partie, si vous voulez, voilà. Justement. On sauve des vies quand il y a une organisation.
Je mets en garde mes jeunes confrères actuellement qui ont souvent envie de venir passer 10 jours ici ou ailleurs avec tout le matériel et qui viennent faire des opérations par exemple sous célioscopie, aller faire une belle opération sous célioscopie, mais ça sert à rien. Ça va rendre service à une personne, mais ça ne sert à rien parce qu'ils vont repartir ensuite avec leur matériel de célioscopie. S'ils laissent en place leur matériel de célioscopie, étant donné que la célioscopie se fait sous gaz, il faut injecter du gaz carbonique dans le ventre pour gonfler le ventre et y voir quelque chose. La bonbonne de gaz, quand elle va être vide, elle ne va pas être remplacée. Donc, on perd son temps.
C'est une autre façon de travailler. Voilà.
C'est tout à fait. Donc, il faut vraiment s'adapter aux technologies possibles. Il faut faire preuve de réalisme. Et donc, de temps en temps, on dort mal la nuit.
J'imagine.
On s'endort mal parce qu'on se dit, ce patient-là, je l'ai abandonné à son triste sort.
Ouais.
Et c'est très attristant. Moi, dans ma spécialité, j'ai les cancers de vessie. En France, j'opère, j'enlève la vessie. Et puis ensuite, soit on reconstitue une vessie, soit on leur fait une poche. Enfin, on fait tout ce qu'on peut pour les guérir.
Voilà.
Là-bas, c'est impossible. Et donc, une fois qu'on a fait le diagnostic de cancer de vessie, eh bien, on explique à la famille. La famille répond, ben non, moi, je ne veux pas que mon fils soit infirme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le ramener chez moi.
Et il va mourir.
Et alors, il va mourir. Alors, j'ai demandé à un jésuite comment ça va se passer pour ce garçon que la famille ramène chez lui. Alors, le jésuite a un petit peu hésité quand même. Et puis, il a fini par lâcher le morceau. Ben, vous savez, docteur Payot, voilà comment ça va se passer. Quand il va commencer à avoir très mal, quand il va uriner du sang, ça va se bloquer, ça va se boucher, il va être très très malheureux. Il y a une nuit où il y a quelqu'un de la famille qui va venir et pendant qu'il dort, qui va lui pincer le nez et lui fermer la bouche.
Oh.
Et c'est comme ça que ça se passe.
Et si vous le voulez bien, nous allons marquer une pause musicale.
Africa. senti sur les forêts de Magnolia. Les seins dorés brûlant les filles passent à deux pas de mes dix doigts. Des musiciens de Casamance au marabout de Pretoria. C'est tout un peuple fou qui danse comme s'il allait mourir de joie.
Toujours avec le docteur Jacques Payot et nous avons écouté un morceau de musique que j'aime beaucoup. Vous pouvez nous en dire plus?
Et c'est un morceau de musique que j'aime beaucoup emporter avec moi quand je vais au Tchad, car ce morceau de musique nous fait vivre l'Afrique avec tout ce qu'elle a de vivant, d'exotique, de luxuriant. Et donc j'aime beaucoup ce morceau et je vous remercie de l'avoir passé en accompagnement de cette émission.
Alors nous évoquions l'évangélisation du Tchad et nous parlions du père Béliné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Donc, je vous avais dit lors d'une précédente émission que l'évangélisation a été faite par différentes congrégations, parmi lesquelles les Oblats de Marie, les Spiritains, les Pères Blancs, mais de manière très éparse et sans forcément l'aval et le soutien tout au moins du Vatican. En revanche, lorsqu'est arrivé le père de Béliné, dont nous avons vu qu'il s'agissait d'un Saint-Cyrien qui est devenu jésuite et qui voulait être missionnaire, son supérieur ne voulait pas qu'il soit missionnaire, mais finalement, cet homme qui avait la tête très dure a fini par obtenir qu'on l'envoie comme aumônier militaire au Tchad en 1934. Donc c'était pour la première fois un jésuite qui arrivait au Tchad. Il a commencé donc comme aumônier militaire, il n'a pas créé de mission à ce moment-là, arrive la guerre, il part à Saint-Pierre-et-Miquelon et en 1943, avec l'autorisation de son supérieur et du Vatican, on crée cette fois-ci une vraie mission à Fort-Lamy, c'est-à-dire à N'Djamena, la capitale du Tchad, on crée une vraie mission pour le père Frédéric de Béliné, qui ne sera pas évêque, mais qui sera missionnaire officiel jésuite pour le Tchad. Et progressivement, les jésuites vont lui prêter, si je peux dire, des confrères qui vont venir les uns après les autres, et ils vont, en quelques années, être une bonne vingtaine à coloniser le Tchad. Avec l'autorisation, ou plutôt même à la demande du Vatican...
Alors ça, nous sommes en quelle année?
On est après-guerre. On est en 46 à peu près. Les jésuites, à la demande du Vatican et avec l'accord des Oblats de Marie, des Spiritains, des Pères Blancs et aussi des Capucins que j'ai oublié de citer, qui ont eu beaucoup œuvré dans les missions chrétiennes du site du Tchad, finalement, ces différentes congrégations vont laisser la place progressivement aux jésuites, étant entendu que ces congrégations vont aller s'installer ailleurs et créer des missions ailleurs. Mais et le Tchad va être confié complètement aux jésuites. Et donc cette mission confiée aux jésuites remonte, est très récente, puisqu'elle remonte aux années 46-47.
Oui, c'est ça, milieu du XXe siècle.
En fait. Oui, c'est ça, c'est très récent. Et alors, c'est dans ce contexte purement jésuite, hein, puisque les autres ont été, non pas éliminés, mais écartés, parce qu'ils ont été évidemment d'accord pour s'écarter, c'est dans ce contexte de jésuite qu'est arrivé le très célèbre, tout au moins au Tchad, le très célèbre père Guérardi.
Oui, c'est lui qui va fonder le Bon Samaritain.
Qui va fonder l'hôpital du Bon Samaritain en 2005. Alors, l'histoire du père Guérardi n'est pas banale. C'est un Italien de famille agricole très basique. Ce ne sont pas du tout des intellos. Son grand-père était un berger dans la montagne. Et à propos
parce
de son grand-père...
Il avait la vocation, il a eu la vocation à 4 ans, je crois.
Et alors, lui-même a eu la vocation à 4 ans. Il a tout de suite dit, je veux être prêtre. Et très rapidement, il a dit, je veux être missionnaire. Et à l'âge de 18 ans, quand il a eu l'équivalent de son bac en Italie, il est parti au noviciat jésuite. Et sa mère n'a jamais voulu l'accompagner tellement elle était en larmes. Seuls son père et son grand-père l'ont accompagné à la gare. Et là, il a commencé ses longues études de jésuite qui l'ont amené à partir en mission à l'étranger. Il voulait être missionnaire au Brésil. Il voulait être missionnaire en Amérique du Sud. Et il avait axé toutes ses études sur le fait qu'il partirait en mission dans un pays où on parle le portugais.
Et là, le jour, pas, c'est et pas le vraiment jour, ce qui s'est passé.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Le jour où il a dû partir, son supérieur lui a dit « Toi, tu vas au Tchad ». Puisque le Tchad, il fallait des jésuites au Tchad. Oui, mais toi, tu vas au Tchad. Mais mon père, j'ai commencé à apprendre le portugais, je ne parle pas un mot de français. C'est pas grave, tu vas il s'appelle Angelo, tu vas partir au Tchad, tu vas apprendre le français et tu oublies ton portugais, c'est terminé. Et alors les jésuites, c'est en étudiant un petit peu ce contexte que j'ai réalisé à quel point les jésuites sont voués à l'obéissance. Il est hors de question de sortir du chemin qui est tracé par le supérieur. C'est hors de question. Vous pouvez éventuellement discuter un petit peu, mais quand on voit la difficulté qu'a eu le père Frédéric de Bellinet à obtenir de pouvoir partir en mission à l'âge de 60 ans, vous imaginez, d'ailleurs, on ne peut pas imaginer que le père Gherardi puisse dire à son supérieur, écoutez mon père, non, moi j'ai décidé d'aller au Portugal ou au Brésil. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ils obéissent. Un jésuite, c'est la grande formule, un jésuite, ça obéit.
Alors, il a participé à la guerre, il a failli être tué.
Vous parlez de qui ? Du père de Bellinet, oui, il a failli être tué. On est à la guerre de 14. Pour la guerre de 40, le père de Bellinet n'avait plus l'âge d'être militaire, donc il était simplement aumônier. Et puis ensuite, il est rentré au Tchad et il a commencé à fonder des missions dans l'Est, dans le Nord, c'est-à-dire en pays musulmans, puis progressivement à reprendre les missions chrétiennes du Sud. Et le père Gherardi, dont nous parlons à propos du bon samaritain, donc arrive dans les années 55-60. Il arrive, je crois, en 1959. Il arrive comme jeune régent. Il a 22-23 ans. Et tout feu, tout flamme. Il commence à apprendre le français avec les gamins qui jouent au foot avec lui. Alors vous imaginez quel français il a pu apprendre avec les gamins. Mais finalement, il parle avec un lourd accent italien. Il parle très très bien le français, dont il connaît toutes les finesses maintenant de manière assez extraordinaire. Donc il va être mis dans une mission dans le sud, dans un bled qui s'appelle Kiabé. Et cette mission va être dans sa vie d'une importance capitale, car un jour, il a dans ses bras une petite fille qui est atteinte d'un paludisme tout à fait particulier, qui est un paludisme anémique, c'est-à-dire que le parasite du paludisme est en train de lui bouffer, est en train de lui bouffer ses globules rouges, et elle est en train de mourir d'anémie, et dans quelques jours, elle va être morte, elle meurt dans les bras de sa maman, qui ne peut rien faire, et on ne peut rien faire.
Et ça va être un choc pour le père.
Oui, pour un chrétien, c'est horrible. C'est horrible de voir ça, puis d'être complètement démuni. Arrive dans le village un 4x4, le 4x4 de l'époque, en 59, je ne sais pas si c'était des 4x4, ça devait être une grosse Jeep, avec quatre jeunes hommes qui étaient des chasseurs d'éléphants. Ils allaient chasser l'éléphant dans le sud du Tchad et dans le nord de la Centrafrique, qu'on appelait Lubangui-Chari. Ils s'arrêtent dans le village, heureusement, pour se restaurer et passer la nuit. On leur présente la petite fille, ou on leur parle de la petite fille. Et pourquoi leur en parle-t-on ? Parce que dans le groupe des quatre, il y a un médecin. Et ce médecin dit « Ah, mais moi, je vais la tirer d'affaire. Mais comment ça, vous allez attirer l'affaire ? Eh bien oui, parce que j'ai apporté du sang compatible, du sang universel, parce qu'au cas où il y aurait un accident chez nos chasseurs d'éléphants, j'ai apporté du sang. Et immédiatement, on prend la petite fille, on la branche, on lui passe deux flacons de sang, et la petite fille s'est remise à vivre, et elle a vécu une vie normale toute sa vie.
Enfin,
voilà, elle a peut-être fait des petites crises de paludisme récurrentes, mais elle a vécu toute sa vie. Alors, vous imaginez la maman, etc. Et alors, le père Gherardi, jeune régent, qui assiste à cette scène, se dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant?
Oui.
On n'y a pas pensé avant parce qu'on n'avait pas de sang. Il dit, mais oui, mais alors, quand on parle avec lui, il y a une phrase qui revient en permanence, c'est bien d'avoir la foi, mais
il faut aussi
avoir la science et la technique. Et c'est de cette idée qu'il est parti
l'hôpital.
Pour créer des hôpitaux. Et il a commencé à créer des hôpitaux dans tout le sud. Il a créé 8 hôpitaux, alors qu'ils sont des hôpitaux à l'africaine, mais des hôpitaux où il y a un petit peu de matériel, où il y a un bistouri, on peut drainer un abcès, on peut opérer une péritonite,
Vous avez vu ces divers hôpitaux ?
Je ne suis pas allé là-bas, mais par contre, il m'en a parlé largement jusqu'au jour où j'ai compris ce qui s'est passé dans sa tête. Il avait 8 hôpitaux, mais il n'avait pas de médecin. Donc, il avait des infirmiers, mais il faut quand même des médecins organiser, pour voir les choses avec un niveau un peu plus élevé. Et il n'y avait pas de médecin. Alors, il a réfléchi, mais il s'est dit, je vais en faire, moi, des médecins. Rien ne résiste à cet homme. Rien ne lui résiste. On dit que c'est un lion. Rien ne lui résiste. Alors, tout simplement, il a créé une faculté de médecine. Il a créé une faculté de médecine avec comme contrat pour les étudiants, tes études seront gratuites ou quasiment gratuites, je te prends en charge, mais tu me dois 10 ans. Et là, pendant ces 10 années-là, tu iras faire de la médecine dans mes hôpitaux du Sud. Et c'est comme ça qu'il a créé l'hôpital du Bon Samaritain, qui est en même temps une faculté de médecine. Et en France, on appelle ça un CHU, un centre hospitalo-universitaire.
Ah oui, quel homme!
Ah oui, quel homme, qui n'est pas médecin. Il n'a aucune notion de médecine, hein, rien, zéro.
Si, il faut des moyens, il faut de l'argent.
Eh ben alors, il est à peu près 3 mois par an en Italie, en Allemagne et
pour
en France. Il fait des conférences et il ramène des centaines de milliers d'euros.
Oui, c'est vraiment un homme merveilleux.
Tout à fait. On pourrait dire que c'est un saint, mais les gens qui le connaissent ne disent pas que c'est un saint, parce que il est tellement avec son idée fixe. Que de faire en sorte que cette faculté de médecine lui procure des médecins, que les hôpitaux marchent bien, qu'ils puissent avoir de l'argent pour les faire fonctionner, pour sauver des vies. Cette idée fixe est tellement forte qu'elle peut être vécue comme étant de manière un petit peu rude par les gens qui l'entourent.
Oui. Alors, vont suivre d'autres médecins, d'autres chirurgiens dans ces hôpitaux ?
Alors, pour trouver des médecins pour l'hôpital qu'il a créé, le Bon Samaritain à N'Djamena, il a pu trouver des médecins locaux et qui y sont encore ou qui y sont venus un peu plus tard. Mais pour la faculté de médecine, là, c'était un autre problème.
Oui, il fallait
c'était
les
un autre
professeurs.
Problème et il savait pas du tout comment faire. Mmh. Et la première année, il s'est retrouvé avec une cohorte de 20 étudiants tchadiens qui avaient passé leur bac et qui a dit nous on est d'accord pour et qui ont signé le contrat et puis le premier mois mais il n'y a pas de professeur. Pas de professeur. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'avait pas un seul professeur devant lui. Alors, il a appelé des copains jésuites, qui, heureusement, comme vous le savez, sont des intellos de Grande-Bourg, et qui sont venus leur faire faire une propédeutique, alors qu'il n'avait rien à voir avec la médecine, mais on a parlé d'histoire, on a parlé français, on a révisé l'orthographe, on a révisé des notions de géographie, de culture générale, etc. Le temps que l'on trouve un médecin professeur qui crée la faculté de médecine.
Eh bien, écoutez, c'est sur ce merveilleux mot que nous allons nous arrêter. Le temps imparti est terminé. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment, docteur.